Il est 6h.
On va avoir des améliorations, mais ça va nous prendre peut-être 15 jours avant d'avoir des chiffres vraiment établis.
Plus de 400 décès ces 24 dernières heures en France, malgré deux semaines de confinement face au coronavirus. Quand allons-nous sentir les premiers effets bénéfiques de la mesure? Réponse dès le début du journal. Les millions de masques promis par le gouvernement arrivent par avion depuis la Chine. Des cargaisons entourées d'un peu croyable dispositif sécuritaire. On vous raconte, des milliers de masques ont récemment été volés. Dans ce journal, ces Français blessés ou souffrant d'autres maux que le coronavirus qui ne vont plus à l'hôpital par crainte du Covid-19.
Moi, j'ai peur de cette chose qu'on décrit comme de plus en plus mortel. On a peur d'y aller parce qu'on se dit qu'on va être plus vulnérable, qu'on va être exposé.
Les médecins alertent, venez tout de même pour être soignés sous peine de complications. En Espagne, plus de 7000 morts, deuxième pays le plus mortellement touché après l'Italie. Le virus semble commencer à doucement reculer. Les médecins espagnols tiennent le choc parfois comme ils peuvent.
Il y a des hôpitaux où on est arrivé à s'habiller avec des sacs à poubelle. Cependant, l'impression c'est que les choses commencent à améliorer un tout petit peu.
Votre invité à 6h40, Mathieu.
Les avions ne volent pas, alors les aéroports ferment. Le PDG d'ADP, Augustin de Romanet, sera avec nous à 6h40. Je lui dirai un mot, évidemment, de la fermeture d'Orly ce soir, mais aussi de la privatisation. Est-ce qu'elle a du plomb dans l'aile? 6h02 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
418 personnes sont décédées en France des suites du Covid-19 ces 24 dernières heures. C'est la plus forte augmentation quotidienne depuis le début de la crise. La barre des 3000 morts à l'hôpital est franchie, 3024 précisément. Comme attendu, l'épidémie continue de s'aggraver. Ça peut paraître un peu déprimant alors que nous sommes tous confinés depuis 14 jours.
Alors Théo Manval, à partir de quand est-ce que l'on va constater les premiers effets positifs de ce confinement? Aujourd'hui, c'est un peu un jour de bascule justement.
Eh oui, parce que nous sommes confinés depuis 14 jours, ce qui est aussi la durée maximale estimée de contagiosité du virus. Donc ça n'est qu'à partir de ce matin qu'on peut dire avec certitude que les personnes nouvellement contaminées l'ont été après la mise en œuvre du confinement. Jean-Stéphane Dersin est mathématicien, chercheur au CNRS, spécialiste en modélisation des épidémies.
Ce qui va se passer, c'est qu'en plus, le confinement, il a été relativement progressif, c'est-à-dire que on pense qu'au début, il a été moins respecté qu'il ne l'a été par la suite. Donc on va voir des améliorations, mais ça va nous prendre peut-être 15 jours avant d'avoir des chiffres vraiment établis.
Deux semaines encore, donc, à partir d'aujourd'hui. Et les épidémiologistes ne vont pas scruter que le nombre de cas officiellement détectés. Ce n'est pas l'indicateur le plus fiable, explique l'infectiologue François Bricaire.
Le nombre de cas, comme on ne sait pas combien de personnes sont effectivement porteuses de virus, c'est bien difficile de savoir de combien on va diminuer. Ce qu'on peut vraiment apprécier en termes chiffrés, c'est le nombre de morts et aussi le nombre d'admissions en réanimation.
Et pour l'instant, ces admissions augmentent encore de 7 à 15% par jour en Île-de-France. Une hausse qui ralentit un peu dans le Grand Est, mais qui continue de se poursuivre.
Plus de 5000 malades sont dans un état grave en réanimation. La tension dans les hôpitaux reste très forte, notamment en Île-de-France. Des patients soignés dans la région devraient prochainement être transférés vers des régions moins en tension pour soulager les services. Comme cela se passe ces derniers jours dans le Grand Est, des transferts qui vont se poursuivre.
Emmanuel Macron se rend ce matin près d'Angers sur le site de l'usine Colmy Open. Le plus gros des 4 producteurs français de masques.
L'usine tourne à plein régime. Le président entend montrer la mobilisation de l'industrie française qui doit répondre à la très forte demande. 40 millions par semaine pour le personnel soignant et les EHPAD, selon l'Élysée.
Le gouvernement a commandé 1 milliard de masques à la Chine. Plusieurs millions sont déjà arrivés par avion, notamment sur un aéroport de l'Est de la France. Une arrivée sous très haute protection parce que des dizaines de milliers de masques ont été volés ces dernières semaines en France.
Et conséquence, la cargaison d'hier était escortée par des centaines de gendarmes armés, Nicolas Fellman.
Des dizaines de gendarmes armés sur le tarmac, des canons prêts à abattre des drones en cas d'intrusion. D'habitude, ce type de déploiement est plutôt réservé aux visites de chefs d'État, mais hier, à la sortie de l'avion, des piles de cartons et à l'intérieur, ces 8,5 millions de masques tout juste arrivés de Chine. Pour les autorités, pas question de risquer le moindre vol ou pillage. Alors pour cette précieuse cargaison, cette scène presque surréaliste se poursuit sur la route. À l'image d'un fourgon blindé, les camions chargés de masques sont escortés par les forces de l'ordre, direction des entrepôts sécurisés du département. En plus des gendarmes sur place, des militaires de l'opération Résilience sont mobilisés pour surveiller les lieux. Pour ce qui est des masques, eux, ils devraient être redistribués d'ici la fin de la semaine dans les hôpitaux et les pharmacies du pays.
Surtout pas d'automédication. L'alerte lancée par l'Agence du médicament sur les possibles effets secondaires très dangereux de médicaments actuellement testés contre contre le coronavirus.
Dont la chloroquine, le plaquenil, dont on vous parle beaucoup ces derniers temps, il n'est plus en vente libre et peut provoquer jusqu'à l'infarctus. Les autorités enquêtent sur le cas d'une trentaine de malades qui se soignaient sans prescription médicale. Trois d'entre eux sont décédés.
Autre inquiétude des médecins, les admissions aux urgences pour d'autres maux que le Covid-19, des admissions qui sont en chute libre, moins 53% en moyenne. Alors certes, il y a par exemple moins d'accidents de la route, puisque c'est le confinement. Mais les médecins craignent que des personnes malades ou blessées ne viennent pas à l'hôpital par crainte d'attraper le virus, ce qui aurait pour le coup de graves conséquences.
Pour Europe 1, Mathieu Bock a contacté plusieurs de ces Français inquiets.
Je me suis foutu un coup de masse sur le doigt. Je ne sais pas si c'est cassé, fracturé ou c'est douloureux, mais bon, je sens encore souffrir d'être malade aujourd'hui.
Comme Sébastien, ce chauffeur routier qui continue à conduire son camion malgré la douleur, ils sont de plus en plus nombreux à refuser d'aller aux urgences. Caroline, étudiante en région parisienne, craint d'y être contaminée.
J'ai vraiment des grosses douleurs au niveau du ventre. Moi, j'ai peur de cette chose qu'on décrit comme de plus en plus mortelle. On voit les nombres augmenter, on voit les chiffres des personnes qui meurent tous les jours augmenter et... On a peur d'y aller parce qu'on se dit qu'on va être plus vulnérable, qu'on va être exposé.
Le professeur Vincent Boone, le chef du SAMU toulousain, entend ses craintes, mais pousse tout de même ses malades à venir aux urgences.
Ok, vous n'avez peut-être pas besoin ou envie d'aller aux urgences. On a d'autres moyens de soigner les gens, des médecins qui passent à domicile ou d'autres modes de soins. Donc il ne faut pas hésiter quand même à prendre un avis médical avant qu'il soit un peu trop tard.
À Toulouse, encore relativement épargnée par le Covid-19, ce sont ainsi deux tiers des patients habituels qui ont déserté les urgences.
Vous avez le nez qui coule, vous toussez, voire vous avez des difficultés à respirer. Vous vous inquiétez, c'est normal. Mais le responsable n'est pas nécessairement le coronavirus, ce peut être le pollen. C'est le printemps, période douloureuse pour les allergiques, qui, s'ils connaissent traditionnellement bien leurs symptômes, s'inquiètent davantage cette année parce que ces symptômes, justement, eh bien, ils ressemblent à ceux du Covid-19.
Bonjour Sylvie Grieux.
Bonjour, c'est Sophie, mais bonjour.
Eh bien bonjour Sophie, enchantée. Moi c'est Mathieu. Sophie Grieux, excusez-moi, allergologue à Paris, membre de l'association Asthme et Allergie. Alors je vais juste te dire une chose, je ne fais pas d'ordinaire, mais pour les auditeurs asthmatiques et allergiques, éventuellement prenez un stylo, on va vous donner un numéro vert à la fin de l'interview. Avec le printemps, donc les allergies qui reviennent, c'est le bouleau, le frêne dans le nord, le cyprès dans le sud. Or, certains allergiques se posent la question en ce moment, et c'est bien légitime, des symptômes qui se ressemblent. Sophie Grieux, est-ce qu'il y a un risque de confondre une réaction allergique et des symptômes du Covid-19?
Oui, ça pose vraiment un problème et on est contacté vraiment plusieurs fois par jour en ce moment par nos patients qui se posent cette question. Alors, il y a trois cas de figure. Il y a le rhume des foins classique que les gens reconnaissent parce qu'ils l'ont déjà eu, ils l'ont tous les ans, et ils reconnaissent les mêmes symptômes modérés, les yeux qui grattent, le nez qui gratte, quelques éternuements, des démangeaisons dans la gorge. Dans ce cas, l'attitude, c'est de prendre ces médicaments antihistaminiques sans hésiter, parce que le problème est à la fois le diagnostic et le traitement. Donc ne surtout pas hésiter à prendre les antihistaminiques pour vous soulager, et parce que particulièrement dans cette période d'épidémie, il est préférable d'avoir des muqueuses en bon état, elles seront plus résistantes.
C'est important, je m'arrête là-dessus un instant, Sophie Grieux, on n'arrête pas ces traitements.
Alors, on n'arrête pas ces traitements. Et le deuxième cas, c'est particulièrement si on est asthmatique, on continue ces traitements de fond inhalés. C'est fondamental. En ce moment, les asthmatiques doivent être bien équilibrés. Là aussi, parce que c'est un gage de meilleure résistance au virus. Et le fait de déstabiliser un asthme, d'avoir un asthme mal contrôlé, est un facteur de gravité. Donc, il faut prendre ces traitements inhalés. De nombreux patients sont inquiets. En raison de ce qu'ils ont entendu quant à la méfiance avec les corticoïdes, eh bien, les corticoïdes inhalés dans l'asthme doivent être pris sans hésitation.
Et si jamais on avait un doute, on précise évidemment qu'on a un terrain asthmatique ou allergique à son médecin parce qu'on est une personne à risque.
Bien sûr, si on est une personne à risque ou qu'on a des symptômes inhabituels. Si son allergie, cette année, se met à donner de la fièvre ou des symptômes qu'on n'a pas d'habitude, une perte totale d'odorat et du goût, des douleurs, des frissons, des choses inhabituelles, il faut consulter, il faut appeler son médecin. Nous sommes joignables. La plupart de mes confrères allergologues sont maintenant accessibles en téléconsultation. Et il ne faut pas hésiter, s'il y a un doute, à nous poser la question pour savoir quels médicaments on doit prendre.
Merci beaucoup, docteur Sophie Grieux, allergologue à Paris et membre de l'association Asthme et Allergie. Je vous demande pardon encore une fois. Allez, je donne le numéro vert. On va le mettre sur europe1.fr, bien sûr, pour les asthmatiques allergiques qui se posent des questions. Le 0800 19 20 21. Vous pouvez même le retenir. 0800 19 20 21.
Ce soir minuit, l'aéroport d'Orly, plus de 30 millions de passagers à l'année, ferme ses portes pour une durée indéterminée. Il n'y a plus de vols commerciaux, seulement les vols d'État et les vols sanitaires ou déroutements d'urgence.
Environ 2000 marchés alimentaires vont rouvrir cette semaine en France sous strictes conditions sanitaires. Cela représente un quart du total, principalement dans les petites villes, mais aussi à Lille, Clermont-Ferrand ou Grenoble.
Cela doit permettre aux producteurs, fromagers, maraîchers d'écouler leurs stocks. Ce sera sans doute l'une des images fortes du jour. Les bancs de l'Assemblée nationale, déserts ou presque, pour une séance de questions au gouvernement. Depuis le confinement, 3 députés par groupe siégeaient. Les conditions se durcissent aujourd'hui, Jean-Gabriel Bourgeois.
Ils ne seront que 9, un seul député par groupe parlementaire et un représentant des non-inscrits. Réduction drastique d'effectifs aussi pour les personnels de l'Assemblée, une quinzaine de fonctionnaires, pas plus. Le député du Rassemblement national, Ludovic Pajot, posera sa question dans un hémicycle quasiment désert.
Moins il y a de députés dans l'hémicycle, moins il y a de risques de propagation du virus. On demande aux Français de se confiner, de ne pas sortir de chez eux. Donc il serait anormal de réunir tous les députés.
En votant l'état d'urgence sanitaire, les députés ont accordé des pouvoirs exceptionnels au gouvernement. La contrepartie, ce sont les questions d'actualité, martèle-t-on dans l'opposition. Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste.
Faire fonctionner les institutions, même dans un temps de crise comme celui que nous connaissons, est très important pour la démocratie. Si on passe en visioconférence, bien entendu, il y aura plus de députés qui pourront poser leurs questions et avoir une réponse en direct de la part du gouvernement.
Des solutions techniques sont à l'étude pour tenir ces séances à distance, mais rien n'est acté à ce stade. Un député LR ironise, on a du mal à imaginer un parlementaire dans sa cuisine en train de poser une question au ministre.
Également à l'agenda politique, l'audition demain à l'Assemblée nationale d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran, le Premier ministre et le ministre de la Santé, entendus par la mission d'information sur la gestion de l'épidémie.
Aux États-Unis, la barre des 3000 morts est franchie. New York, principal foyer, voit l'arrivée d'un navire hôpital pour désengorger les services.
L'Italie reste, pardonnez-moi, le pays le plus mortellement touché, plus de 11 000 morts. 11 000 morts, mais l'épidémie semble commencer à doucement reculer. Comme en Espagne, plus de 7 000 morts, mais le nombre de décès quotidiens est en baisse.
Le docteur Félix Del Oro, médecin urgentiste en Andalousie, confirme ce recul, même si la situation reste très compliquée. Il est au micro d'Henri de la Guérie, correspondant d'Europe en Espagne.
Nous, en Espagne, on a le taux de personnel sanitaire infecté le plus haut de toute l'Europe. Ce n'est pas tolérable d'avoir des personnes qui travaillent avec des matériels qui ne sont pas appropriés. En fait, il y a des hôpitaux où on est arrivé à s'habiller avec des sacs à poubelle. Cependant, l'impression, c'est que les choses commencent à améliorer un tout petit peu. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de faire pendant tous ces jours de confinement, ça commence, avec toutes les précautions qu'on doit prendre, ça commence à fonctionner. C'est une évolution très lente. Bien sûr, ça nous donne un petit peu d'espoir et ça nous aide à continuer à travailler. Il faut continuer. Peut-être que ça signifie que nous sommes dans la bonne voie, mais encore, il y a beaucoup de choses à faire.
La situation espagnole, bien sûr, la situation espagnole, mais aussi la collaboration européenne, la coordination des efforts. À 7h40 sur Europe 1, Arantxa González-Laya, la ministre espagnole des Affaires étrangères.
Et ces derniers jours, plusieurs regards accusateurs se tournent vers la Chine. Le régime est suspecté d'avoir minimisé le nombre de morts dans le pays. Nous vous en parlions hier. Par ailleurs, plusieurs dirigeants européens s'agacent d'une forme de diplomatie de la santé menée par Pékin. Comme s'il fallait faire oublier que la pandémie a débuté dans le pays, Jean-Sébastien Soldaini.
Un mois après le début officiel de l'épidémie, la Chine commence à réécrire l'histoire. En Asie, tout d'abord, dès les premiers cas connus à Tokyo, les diplomates parlent du coronavirus japonais, comme s'il était inacceptable pour l'image du pays d'être pointé du doigt comme étant l'épicentre du Covid-19. Et si le virus continue de se répandre, affirment des responsables locaux, ce serait parce que des Iraniens ou des Italiens l'ont réimporté. Alors après avoir tout fait pour essayer de dissocier la Chine de la pandémie, Pékin passe désormais à la phase 2. Marc Julien, spécialiste de la Chine à l'IFRI, voit avec ses envois de masques et de médecins en Europe une opération reconquête des opinions publiques occidentales.
Là, c'est une opération de communication qui cherche à faire oublier justement le début de la crise avec cette aide médicale offerte partout avec grand renfort de propagande à travers les médias chinois et parfois même dans les médias occidentaux pour montrer une image de la Chine, une image responsable au chevet des autres puissances, mais qui, en plus de gérer la crise chez elles, parvient à aider les autres.
Sauf que la qualité de certains masques laisse à désirer et qu'une partie de l'aide envoyée en Italie n'est pas sous forme de don. C'est un achat effectué par le gouvernement de Giuseppe Conte.
Eux n'ont manifestement pas du tout respecté les mesures de confinement ou de restriction de déplacement aux Pays-Bas. Des voleurs ont dérobé dans un musée fermé au public un très cher tableau d'un certain Vincent Van Gogh.
Isabelle Horry, vous nous racontez ce larcin bien singulier. Le conservateur de ce musée près d'Amsterdam est atterré.
Oui, les voleurs savaient très bien ce qu'ils venaient chercher. Ils n'ont emporté qu'une seule toile dans l'exposition du musée Singer, un musée situé à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam. Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps avait été prêté par une institution du nord des Pays-Bas. C'était le seul tableau de Van Gogh encore accroché dans les salles, malgré la fermeture du musée depuis deux semaines. Cette peinture de petit format, une femme dans un jardin au ton vert brun, vaudrait 1,5 million d'euros, selon un expert néerlandais. Le directeur du Singer a fait une conférence de presse retransmise sur Internet. Yann Rudolf Delorme est furieux.
C'est un vol terrible pour le musée, mais aussi pour nous tous, car l'art est fait pour être vu, pour être partagé, pour inspirer et pour apporter du réconfort, en particulier dans ces temps difficiles.
Les voleurs ont forcé la porte vitrée de l'entrée un peu après 3h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. L'alarme anti-vol s'est bien déclenchée, mais la police est arrivée trop tard pour les intercepter.
Voilà, je vous confirme, Mathieu, que dérober un tableau de Van Gogh ne figure pas sur les attestations de déplacement dérogatoire.
C'est bien d'avoir vérifié. C'est toujours bien de vérifier, on ne sait jamais.
La case à cocher.
Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal de 6h à 6h30. On va retrouver François Geffrier. Et comme si le virus ne suffisait pas, nous sommes la cible d'attaques informatiques en ce moment. L'assistance publique hôpitaux de Paris, notamment. On va tout vous raconter à 6h30. Bon réveil.
Europe 1.
Dans un instant, mon invité inattendu, et puis Fanny Agostini qui est de retour sur Europe 1.
C'est un jardin extraordinaire.
En ce moment, on entend les oiseaux en ville. On retrouve aussi certains animaux à la campagne. Est-ce que le confinement laisse place à la nature ou est-ce qu'on n'est pas en train de rêver? A tout de suite sur Europe 1.
On y va.
Europe 1. Philippe Vandel.
Tout à l'heure dans Culture Média, Jérôme Anthony, l'animateur pour l'émission Les 20 chansons préférées des Français, c'est sur W9. Et pour l'émission culinaire Tous en cuisine, avec la star des cuisines, Cyril Lignac. Et puis le chanteur, Ben L'Oncle Sol, ça va swinguer.
Europe 1, Culture Média.
Alors, à tout à l'heure, 9h30 sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
Il est 6h18, vous êtes sur Europe 1 et c'est l'heure de l'invité inattendu tous les matins. Un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Ce matin, tiens, une musique que là vous allez reconnaître. Les parapluies de Cherbourg. Jacques Demy, 1964. Alors, les parapluies de Cherbourg, qui ne sont pas qu'un film, fut-il un classique, c'est aussi une entreprise. Bonjour Charles Yvon.
Bonjour.
Alors, évidemment, vous fabriquez, vous vendez des parapluies. Quand l'entreprise s'appelle les parapluies de Cherbourg, ça paraît évident. Mais simplement, l'entreprise, qui est une entreprise familiale, la marque est née 22 ans après le film.
Voilà, tout à fait. La marque a été créée par mon père en 1986, parce qu'il n'y avait pas de fabrication de parapluies à Cherbourg. Ça n'existait pas.
Ça, d'accord. Et puis il y avait le film qui l'a inspiré, j'imagine, un petit peu pour se lancer dans cette entreprise.
Bah, complètement, oui. Parce que, il voyageait dans le monde entier, puis on lui parlait toujours à Cherbourg, les parapluies. Donc le film a fait son bonhomme de chemin, donc très, très connu. Et il s'est dit, bah, pourquoi pas créer une marque très forte, emblématique, de parapluies, avec une gamme complète et des parapluies très résistants et élégants.
Alors à Cherbourg, vous avez maintenu la fabrication sur place. Avant de parler du coronavirus dans un instant, simplement souligner que c'est un bel outil productif qui est le vôtre, une manufacture en centre-ville, deux boutiques. Combien de salariés ?
Là, on est 22 personnes.
Voilà, mais quand on soutient le Made in France, il faut aussi le souligner, même si ce n'était pas l'objet de notre appel. Entrons dans le vif du sujet, Charles Yvon. Vous tentez une reconversion express et temporaire, la fabrication de masques.
Alors, la fabrication de masques, alors disons que c'est une activité plutôt à côté et qui est une activité entièrement bénévole. Donc, ce n'est pas du tout un business. C'est vraiment pour répondre à la pénurie de masques qu'il y a actuellement, où on a décidé de fabriquer, de répondre pour les soignants localement autour de Cherbourg. pour pouvoir fabriquer ces masques.
Oui, vous fabriquez des masques. En fait, vous avez eu cette idée qui est brillante, puisqu'elle permet à tous de mettre la main à la pâte, finalement. Vous avez lancé un kit qui permet de fabriquer son masque.
Ben voilà, en fait, je suis parti du constat où que tout de suite qu'on était 22 personnes. Donc voilà, c'est une petite entreprise familiale sympathique. Mais après, pour faire de la grande fabrication en série, c'était un peu plus compliqué. Et là, je me suis dit, ben, les personnes sont chez elles. On a ce qu'il faut à la manufacture pour faire la coupe, que ce soit du tissu, la coupe des élastiques, des petites barres en métal. Ben, on donne des kits qui font 20 masques par kit. Et je vais livrer les personnes avec ce kit.
Vous-même ?
Moi-même pour l'instant. Et récupérer les masques 2-3 jours après en fonction des personnes.
Alors, vous avez lancé cette opération il y a une dizaine de jours là, face à l'urgence, évidemment. D'abord, les premiers masques, les premiers retours, ça va ? Avec votre kit, c'est facile à fabriquer ?
C'est facile. Alors, il y a un petit temps d'adaptation. Hein. Les 5 premiers, je vois par rapport à mes couturières bénévoles qui font ça à domicile. Les 5 premiers, ça demande un petit peu de temps, et après, quand le coup de main est arrivé, voilà, on arrive en gros, si vous voulez une donnée chiffrée, on arrive environ à 10 minutes pour les plus rapides pour faire un masque.
D'accord. Donc en 10 minutes, c'est gérable. Alors vous livrez, vous l'avez dit, hein, les infirmières libérales, les cabinets médicaux, les maisons de retraite. Là aussi, on est dans l'ancrage local.
Oui, complètement. Et ben là, le but, c'était de répondre localement parce que c'était un peu compliqué de s'éparpiller. Comme les livraisons, on les fait, je prends ma voiture et puis je vais livrer les personnes, enfin, recueillir les masques et puis après livrer les EHPAD, les cabinets médicaux. Donc voilà, j'ai voulu faire ça vraiment en local. Et la production, on est actuellement à plusieurs centaines par jour de masques.
Alors tiens, il y a les parapluies de Cherbourg, bien sûr, dans notre culture cinéma. Je vous ai trouvé, Charles Yvon, un autre extrait du patrimoine français. Même époque, un an après, les galettes de Pont-Aven, le grand Jean-Pierre Mariel, représentant de commerce, il vend des parapluies.
Alors nous avons le 48 à 8 baleines, le 56 à 10 baleines, le 60 à 8 et 10 baleines pour les dames, et notre fameux 63 à 8 et 10 baleines que vous connaissez sûrement et qui est notre cheval de bataille. Tout ça dans une gamme de coloris très large, ça va du noir classique au rouge vif, en passant par les jaunes et les verts dégradé. Parapluie plat, parapluie rond, parapluie doublé.
J'arrive pas à le couper, Charles Yvon. Quelle voix, Jean-Pierre Mariel. Vous connaissez l'extrait, évidemment.
Tout à fait, oui.
Alors parlons technique un tout petit instant. A priori, un masque de protection et un parapluie, ce n'est pas la même chose à fabriquer. S'il y a un point commun, c'est l'imperméabilité de la matière.
Oui, alors le masque, il y avait un problème aussi d'approvisionnement de matière. On a été une pénurie de tissus et là, avec une entreprise locale qui s'appelle les Tissus d'Isa, qui ont plusieurs boutiques dans la Manche, ils ont fourni du polycoton, donc le tissu qui est à l'intérieur contre la peau. Et à l'extérieur, c'est un polyester, donc qui est traité imperméable, déperlant, voilà, qui est vraiment équivalent barrière.
Bon, il y a du Jean-Pierre Mariel dans votre description, finalement. petite touche aussi, et puis ça, c'est pour le sourire, et puis pour ceux qui, chez vous, s'y mettent. Vous avez plusieurs coloris à disposition, selon les disponibilités, évidemment.
Oui, alors on a plusieurs coloris. On a en gros une vingtaine de coloris et une dizaine de modèles. Voilà, pour correspondre au mieux à la personne qui l'utilise et puis aux circonstances.
Merci Charles Yvon, je suis ravi de vous avoir eu à l'antenne avec nous, le PDG de l'entreprise, pas le film, l'entreprise, les parapluies de Cherbourg.
Merci beaucoup.
On le disait dans le journal de 6h, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur le site de l'usine d'un des plus gros producteurs français de masques. On en a besoin de 40 millions par semaine. Dans le journal de 8h, vous entendrez l'urgentiste, le représentant des urgentistes, Christophe Prudhomme, qui appelle à ne pas importer en urgence comme on le fait, mais à tout de suite mobiliser l'appareil industriel français pour fabriquer les masques, notamment parmi les équipements dont on a besoin. Eh bien, Charles Yvon en était l'illustration ce matin, mon invité inattendu sur Europe 1. Il est 6h24.
Mathieu Béliard.
Et c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme, l'heure de retrouver Fanny Agostini à Boissé en Haute-Loire dans sa ferme. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Alors Fanny, avec le coronavirus, on l'entend partout, c'est la nature qui reprend ses droits.
Effectivement, la Terre n'aura jamais connu un printemps aussi paisible depuis des décennies. Les animaux tirent vraiment profit du confinement. On a vu ces derniers jours des canards colverts traverser à pattes le périph' parisien au Chili. Les pumas sont de retour dans les rues, sans parler de la qualité de l'air impressionnante. C'est comme si nous étions en cure thermale rien qu'en respirant l'air ambiant. Les particules de dioxyde d'azote liées à la circulation routière, les fameux PM10, qui sont à l'origine de maladies pulmonaires et de milliers de décès par an, se sont littéralement fortement volatilisé.
Des effets, Fanny, qui risquent d'être éphémères.
Oui, cette parenthèse oxygénante pour la faune, la flore, nos poumons et le climat ne doit pas être un miroir aux alouettes. Car ce dont nous avons besoin, comme le dit très bien le docteur en sciences politiques François Gémen, ce n'est pas d'une année blanche, mais d'une baisse progressive et continue de nos émissions mondiales. N'oublions pas que les crises précédentes sont très riches en enseignements. Après 2008, par exemple, les émissions de CO2 en Chine ont explosé l'année suivante. Lorsque nous rentrerons dans la période post-corona, on peut légitimement craindre que la relance économiques viennent justifier la mise de côté des préoccupations climatiques.
Et c'est l'annonce de certains pays qui peut nous laisser penser cela.
Eh bien, par exemple, le Canada prévoit déjà un plan de soutien des énergies fossiles, tandis que les États-Unis anticipent de lever toutes les sanctions vis-à-vis des entreprises polluantes pour les aider à reprendre leurs activités. En soi, business as usual. Ce qui comptera vraiment Mathieu après cette crise, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de purifier l'air sur le court terme, mais bien d'assainir notre économie sur le long terme.
Merci beaucoup, Fanny Agostini. C'est notre rendez-vous à la ferme, qu'on est très heureux de retrouver cette semaine avec nous, même si nos programmes ont évolué, on s'est mis à votre écoute, à votre disposition aussi, justement, pour vous aider dans cette crise du coronavirus. Mais Fanny Agostini, vous manquez. La revoilà et on la retrouve à 9h10 également le matin sur Europe 1. Il est 6h26.
Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif.
Vous ne rêvez pas, vous êtes sur Europe 1 et vous écoutez Booba, le rappeur Booba, qui lui aussi s'engage contre le coronavirus. Il publie un reportage sur Instagram. 26 minutes de vidéo-reportage réalisé en visioconférence, ça s'appelle Corona Time. Presque une émission qui pourrait être récurrente. Le rappeur Booba chez lui à Miami, qui appelle ses amis, comme nous le faisons ici finalement, hein, de la radio dans un garage, et bien lui c'est à Miami. Avec un mot d'ordre bien sûr, restez chez vous. Alors on retrouve des interviews, Booba intervieweur. On a décidé de faire cette émission pour aider du mieux qu'on peut, dit-il. Des interviews par exemple de Ben, qui est médiateur de rue à Nanterre et qui part à la recherche des jeunes qui ne respectent pas le confinement. Écoutez.
Mon frérot, ouais. On sait comment là, on est en période de corona, comment ça se fait, t'es dehors comme ça?
J'arrive pas à rester chez moi, je peux pas, impossible, je m'ennuie.
Ah ouais?
Ouais.
Mais pourquoi, c'est le soleil qui te dit de sortir ou?
Ouais, bah ouais.
Mais tu sais que c'est dangereux quand même.
Ouais, mais tout le monde sort.
Mais il faut que tu fasses quand même attention, frérot.
Ah bah ouais, toujours.
Parce que tu peux le transmettre à tes parents, toi tu peux être un porteur sain, et tu rentres chez toi, tu le donnes à tes parents et ça peut être dangereux. Est-ce que t'es conscient de ça?
Ah bah oui.
T'es sûr, t'es conscient?
Ouais, bah ouais.
Tu serais pas là.
Non, mais je me lave tout le temps les mains, tout ce qu'il
y a. J'attends pas que ça tombe du ciel.
Étonnante émission de Booba, justement. Puisque c'est une réelle émission, ces interviews, on échange, on argumente, on discute. Il mobilise ses fans qu'il appelle désormais des Corona Soldiers. Il y a un travail de pédagogie et une inquiétude chez le rappeur. Écoutez cet extrait. Une inquiétude, je sais pas. En tout cas, il s'attend à un moment ou à un autre à un rôle de l'armée dans la sécurisation du confinement.
Et si demain il y a l'armée dans les quartiers, etc., tu penses qu'ils vont écouter ou est-ce que ça va changer quelque chose?
Il y en a qui vont écouter, surtout à mon avis les familles, ceux qui ont l'habitude de sortir un petit peu en famille, prendre une petite demi-heure, une heure. Je pense que ça va leur faire peur. Dès qu'ils vont voir l'armée, là, ils vont se dire, oh, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est là, je pense que là, c'est pas de la rigolade. Maintenant, les petits, ils sont beaucoup dans un. Ça va être comme un défi. Ils rentrent dans un jeu. Ils se disent, ah bah tiens, il y a l'armée.
Ouais, ils jouent au chat à la souris. Sauf qu'ils
voilà, ça joue au chat à la souris.
Ils oublient l'ennemi global, ils oublient Corona.
C'est le moment de servir à quelque chose, dit Booba, qui semble vouloir faire plus en tout cas que simplement rapper dans sa cuisine. Et c'est un événement ce matin, un débat que nous lançons 9h-9h30 face au coronavirus. Quelle est la place de l'artiste? Je vous attends au 39-21 sur le hashtag Radio Ouverte. Vous connaissez désormais le chemin. Et je vous l'annonce ce matin, c'est exceptionnel. Il donne très peu d'interviews à des médias dits classiques, puisqu'il parle surtout sur les réseaux sociaux. Booba sera sur Europe 1 de 9h10 à 9h30 en direct de Miami ce matin. Bon réveil à toutes et à tous, 6h29. L'autre rappeur de la matinale, c'est Laurent Cabrol.
Le meilleur à Miami qu'ici. Hein.
Alors, c'est possible, c'est probable.
Moins 5 degrés à Luxeuil, mes amis. C'est vraiment une matinette très froide. Hein. Moins 4 à Épinal et Vichy, moins 3 à Mulhouse, moins 2 à Clermont-Ferrand, Strasbourg, Saint-Etienne, à Bordeaux, Besançon, moins 1, entre 0 et plus 1 à Lyon, Cognac, Lille, Bourges, banlieue parisienne, 3 à Toulouse, 5 à Marseille et 6 à Brest. Vous voyez que nous sommes vraiment dans une matinale extrêmement froide. Elle sera encore froide demain. Et ensuite, promis, les températures vont remonter en fin de semaine. et nous aurons une parenthèse, disons presque ensoleillée, oui, mais souvent très douce, oui, durant les journées de samedi et de dimanche. La couleur du ciel aujourd'hui, ma foi, facile à résumer, ce sera du bleu partout, mais avec du vent, 60 km/h qui va donc accentuer le ressenti du thermomètre, parce que sous abri, nous aurons du 12 à 16 degrés, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis attention, Méditerranée, là, le ciel restera très encombré.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal à 6h30.
Le but, c'est de créer une surcrise à la crise déjà existante. Donc il y a plein d'attaques possibles qui peuvent avoir lieu et le télétravail peut être un accès.
Les téléphones, tablettes et ordinateurs sont nos amis indispensables en ce moment, mais précisément, les cyberattaques sont en plein boom, venues notamment de la Chine. Nous verrons que les pharmacies, commerces ouverts pendant le confinement, peuvent permettre à des femmes victimes de violences de trouver un peu d'aide. Un quart des marchés alimentaires vont rouvrir. Il faut dire que les petits producteurs ne pouvaient plus écouler le fruit de leur travail. Et puis le monde du rugby aura son plan Marshall pour éviter la faillite des clubs. 35 millions d'euros sont mis sur la table par la fédération. Votre invité dans 10 minutes, Mathieu.
C'est le PDG du groupe Aéroport de Paris. Les aéroports de Paris inquiets alors que le trafic aérien cesse. Orly va fermer ses portes à partir de ce soir minuit. Augustin de Romanet en direct sur Europe 1 dans 10 minutes.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On parle ce matin d'un virus chinois, mais celui-ci est informatique. En pleine pandémie de Covid-19, des groupes de pirates s'en prennent à la France. Nous sommes le troisième pays le plus touché en ce moment, selon les informations d'Europe 1.
Et comme si elle avait besoin de ça il y a quelques jours, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris qui a été visée. Mais d'autres attaques sont en cours, profitant des failles du télétravail pour infiltrer les entreprises. Guillaume Biet, qui sont ces hackers ?
Alors ils sont nombreux, hein. Ce sont des armées de pirates informatiques, mais les principaux sont connus, ils sont majoritairement chinois, russes et iraniens. Ils agissent aussi bien pour le compte de leur État que pour leur propre intérêt, et ils ont un objectif essentiel, faire tomber notre système, explique Édouard Janson, responsable sécurité de Capgemini France.
En attaquant les infrastructures vitales, en attaquant les entreprises, en attaquant notre système d'information, le but c'est de créer une surcrise à la crise déjà existante. Donc il y a plein d'attaques possibles qui peuvent avoir lieu et le télétravail peut être un accès. Il faut faire extrêmement attention sur quoi on clique et sur ce qu'on utilise à son domicile. Alors c'est clair, c'est pas évident. Vous êtes en train de bosser, votre enfant vient vous demander un exercice de maths, vous repassez sur un mail perso et vous re-switchez sur un truc professionnel. Mais il faut faire très attention sur quoi on clique, parce que cette déconcentration, entre guillemets, peut ouvrir des brèches qui permettent après aux pirates d'accéder au système d'information de votre entreprise et les voler ou les pirater.
Et pour cela, les hackers déploient les grands moyens. Des dizaines de milliers d'adresses internet frauduleuses et de pièces jointes vérolées circulent depuis 3 semaines, avec tout un point commun, le mot « Covid », pour vous inciter à cliquer et infiltrer votre système.
Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Autre mise en garde, cette fois sur le plan sanitaire, et c'est l'agence du médicament qui alerte sur une trentaine d'effets indésirables graves signalés, dont 3 décès chez des patients atteints du coronavirus et traités par du plaquenil, c'est-à-dire de l'hydroxychloroquine.
L'agence a placé sous surveillance renforcée depuis 2 semaines tous les traitements expérimentés dans le traitement du virus. Elle précise qu'en aucun cas ils ne doivent être pris en automédication ni même sur prescription d'un médecin de ville.
Et puis cette annonce de Martin Hirsch, patron des hôpitaux publics parisiens, un test va être mené pour permettre l'oxygénation de certains patients à domicile. Il y aurait toujours une surveillance médicale à distance et cela permettrait bien sûr de faire face à l'afflux de malades.
Depuis le début du confinement, il y a maintenant 2 semaines, on sait que les violences conjugales sont en hausse de 32 à 36%. Il est beaucoup plus difficile pour les femmes victimes d'appeler à l'aide quand elles sont coincées chez elles 24 heures sur 24 avec leur conjoint.
Le gouvernement cherche des solutions. On a évoqué la piste des centres commerciaux et celle des pharmacies. Justement, on a appris qu'une première femme s'était rendue ce week-end dans une officine de Nancy, un lieu où elle pouvait être en confiance, explique le procureur de la République, François Perrin.
Pour elle, c'était beaucoup plus facile de s'adresser à une pharmacie, à une pharmacienne qu'elle connaît, avec laquelle elle entretient des relations, je dirais, pas quotidiennes, mais régulières, plutôt que de s'adresser à un commissariat. Cette jeune femme était en détresse. Elle venait de subir une agression de la part de son concubin, menacée par celui-ci avec un couteau. C'est parce qu'elle était en désarroi qu'elle est venue chercher du secours auprès de cette pharmacienne. Cette pharmacienne a pris le temps d'écouter et surtout coup a pris en compte cet appel au secours et a téléphoné donc à la police, qui a tout de suite dépêché une patrouille. La police donc a procédé à l'interpellation et au placement en garde à vue du mis en cause, et celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire l'obligation de quitter le domicile conjugal dans l'attente de son audience fixée au 5 juin 2020.
Le procureur de Nancy, joint pour Europe 1 par Marion Dubreuil. C'était devenu un problème insoluble pour de nombreux producteurs agricoles. La fermeture des marchés alimentaires il y a une semaine, eh bien, une partie d'entre eux vont pouvoir rouvrir 1 sur 4, soit 2500 marchés en France.
Les dérogations ont été facilitées après un travail de fond sur les bonnes pratiques sanitaires. Monique Rubin, présidente de la Fédération nationale des marchés de France, se félicite de cet assouplissement des règles.
Si on n'était pas dans cette crise aussi dramatique que celle que l'on vit, je sauterais de joie. C'est non seulement un soulagement, c'est réellement la possibilité pour les producteurs de pouvoir écouler leur production, parce que ça, c'est quand même dramatique pour eux. Donc, on devait apporter toutes les possibilités de sécurisation pour la population et pour les commerçants. Il faut qu'il y ait un espace entre l'étal du commerçant et le consommateur d'un mètre. Il faut que entre chaque consommateur, il y ait un espace de 1 mètre à 1 mètre 50. On met des petits scotch par terre, on met des ficelles, on met des cagettes tous les mètres. Il faut pas se toucher. Vous savez, le marché, il existe depuis que le monde est monde et on doit préserver impérativement nos activités. On ne veut pas mourir et les marchés vont continuer à vivre justement en travaillant de façon très rigoureuse.
Monique Rubin, jointe par Marion Gauthier pour Europe 1. À l'échelle mondiale, on estime que 3 milliards 400 millions de personnes sont aujourd'hui confinées, soit 44% de la population de la Terre. Le bilan humain est de 37 000 morts du coronavirus.
Et à ce sujet, une phrase du président américain n'inspire pas à l'optimisme. Donald Trump estime que si on a entre 100 et 200 000 morts, c'est un chiffre horrible, mais on aura fait du très bon boulot.
Le même Donald Trump affirmait il y a 3 semaines qu'il y aurait très peu de morts. Le président américain qui se démultiplie en ce moment à la télévision. Xavier Yvon est notre correspondant à New York.
Les chiffres grimpent, se réjouit Donald Trump. Non, le président américain ne parle pas des cas de coronavirus, mais des audiences télé de ses briefings sur l'épidémie. L'ancien présentateur de télé-réalité fait son show chaque jour depuis la Maison Blanche. Hier, il a lui-même sorti de sa boîte un nouvel appareil à dépister le Covid-19. Il fait venir au micro ses conseillers qui louent son leadership. Donald Trump veut donner l'image d'un président aux manettes. Il a même déjà anticipé les critiques sur le nombre de morts avec cet argument étonnant.
Si on n'avait pas fait la distanciation sociale, si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait, on parlerait de 2 200 000 morts. Alors si on arrive à 100 000, bah, c'est un chiffre horrible. Mais si on a entre 100 000 et 200 000 morts, on aura tous fait du très bon boulot.
Donald Trump multiplie aussi les interventions sur Fox News où il a antenne ouverte sans question difficile. Malgré les messages contradictoires, les tentatives de réécrire l'histoire, son occupation du terrain médiatique porte ses fruits. La cote de popularité de Donald Trump augmente en même temps que ses audiences télé et que le nombre de morts aux États-Unis. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Côté sport, on a beaucoup parlé du football avec la remise en cause de la Ligue 1, de la Ligue des Champions, de l'Euro. Mais le rugby pourrait être plus en danger que le foot, car plus fragile.
Les clubs du top 14 ont mis en place le chômage partiel. Et en attendant une éventuelle reprise du championnat, la fédération débloque des fonds absolument exceptionnels, comme nous l'explique pour Europe 1 Cyril de la Morinerie.
Bernard Laporte parle bien d'un plan Marshall. Le président de la Fédération française de rugby va débloquer 35 millions d'euros. Une série de mesures pour aider les 1900 clubs amateurs français.
On va les accompagner. Et puis surtout, l'année prochaine, on a dit zéro prélèvement. C'est-à-dire que la Fédération française de rugby prendra tout en charge. Quand un licencié ira s'inscrire dans un club, eh bien le club gardera tout.
Du côté des clubs professionnels, tous ont mis leurs joueurs en chômage partiel. Une bouffée d'oxygène. La masse salariale représente environ 65% de leurs charges. Mais cela ne sera bientôt plus suffisant. Jean-François Fontenot, président d'Agen, l'un des plus petits budgets du top 14, redoute les pertes probables liées à la billetterie et au sponsoring.
Si effectivement demain on était dans l'obligation de rembourser des partenaires, des abonnés sur toute la période du championnat qui n'a pas été réalisée, donc ça serait évidemment un accident industriel très difficile à surmonter, pour ne pas dire impossible.
Et s'il le faut, le président d'Agen fera un emprunt. Sujet également abordé par la Ligue de rugby qui vient de constituer plusieurs groupes de travail.
C'était Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Merci beaucoup François Geffrier pour le journal de 6h30 à 7h. Nous serons en direct avec Hélène Zélani bien sûr. Il est 6h39. Bon réveil à toutes et à tous.
Mathieu Béliard.
Ce matin à 8h15, Jean-Guy Talamoni est dans le contexte. C'est une voix à entendre ce matin, le président de l'Assemblée de Corse qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Il restera pour répondre à vos questions jusqu'à 8h45. Les disparités régionales, on va en parler, tiens, notamment de la Guadeloupe. À 7h, nous appellerons le syndicaliste Elie Domota. Et donc, vous interpellez nos invités, vous n'hésitez pas, vous le savez, au 39-21. Mais pour l'heure, à 6h40 sur Europe 1, je reçois Augustin de Romanet, le PDG d'ADP à Aéroport de Paris. Bonjour Augustin de Romanet.
Bonjour Mathieu Béliard.
Et merci d'être en direct avec nous. Le coronavirus a mis un coup d'arrêt net, brutal, au trafic aérien. On l'a annoncé la semaine dernière, vous fermez l'aéroport d'Orly ce soir, plus un avion. Mais c'est temporaire, sauf qu'il n'y a pas de date de reprise. C'est parfaitement inédit comme situation, Augustin de Romanet.
Oui, c'est tout à fait inédit à la hauteur de la pandémie que nous connaissons. Alors, en réalité, nous mettons plutôt Orly sous cloche. L'aéroport n'est pas fermé au sens où nous pourrons continuer à assurer des évacuations sanitaires, des déroutements d'avions, des vols gouvernementaux. Donc, il y a un certain nombre de fonctions vitales, sécurité, sûreté, énergie, maintenance qui vont rester. Mais il est vrai que le trafic passager va être suspendu pour une raison simple. Habituellement, nous avons entre 85 et 100 000 passagers par jour. Hier, nous avions 2 000 passagers sur une vingtaine de vols. Donc autant dire que maintenir une infrastructure de cette taille, maintenir des transports collectifs, maintenir tout l'équipement pour 2000 passagers, représenter une charge élevée et pour l'aéroport et pour les compagnies aériennes. Et donc on va regrouper tous les vols à Charles de Gaulle. Pour Air France, par exemple, qui n'avait plus que quelques vols domestiques à Orly, c'est-à-dire Paris-Marseille, Paris-Toulouse, Paris-Nice, eh bien, elle opérera tous ses vols à partir de Roissy-Charles de Gaulle. Il restait également un vol de Vueling avec Barcelone et un vol de Madrid avec Iberia.
Oui. Oui, mais chez vous, par exemple, plus un vol EasyJet qui compte beaucoup à Orly, Transavia, idem, deux compagnies importantes. Avant de rentrer sur ces questions techniques, et c'est vrai, vous fermez parce que vous mettez sous cloche parce que le trafic est trop faible. Mais hier encore, une vingtaine de vols, alors que d'habitude, Orly, c'est 640 vols quotidiens. C'est une moyenne. Un aéroport avec 20 vols, Augustin de Romanet, ça doit vous faire un pincement, ça doit vous faire quelque chose.
Pour tout vous dire, ça ne me fait rien du tout par rapport au nombre de gens qui souffrent à cause du coronavirus. Je vais vous dire, ce qui est important aujourd'hui, ce qui se joue, c'est le fait que, probablement pour la première fois dans l'histoire, on considère que la vie humaine a un prix suffisamment élevé pour qu'on y sacrifie l'activité économique. Et ça, c'est un événement majeur. Souvenez-vous, la grippe espagnole, il y a 100 ans, l'activité économique continuait comme si de rien n'était. Donc, on va dire, malheureusement, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est la situation sanitaire. Le fait que nous, acteurs économiques, le prenions de plein fouet et que tous nos concitoyens ne puissent plus ni voyager, ni se déplacer, etc., etc., je dirais, c'est une difficulté, mais ce n'est rien par rapport aux gens qui sont aujourd'hui en réanimation.
L'idée, c'est de regrouper ce qu'il reste d'activité à Roissy-Charles de Gaulle. Donc, mais bon, Orly, c'est 29 000 salariés. Avec toutes les questions de sécurité, d'habilitation, mais aussi d'organisation du trafic, il faut le souligner pour nos auditeurs, votre secteur d'activité, ça n'y est pas une évidence de regrouper des aéroports.
Non, effectivement, la performance d'un système de transport aérien, c'est sa connectivité et le nombre de points de contact. Et une des très grandes difficultés de la période que nous allons connaître, c'est que tellement d'aéroports dans le monde vont être fermés que le redémarrage du trafic aérien va être un petit peu lent. Si je prenais une image, je prendrais l'image du fax. Vous savez, quand le fax a été lancé, c'était bien gentil de posséder un fax. Mais il fallait qu'en face, vos interlocuteurs en possédaient également un également pour pouvoir utiliser cette technologie. Bon, l'aéroport, c'est pareil. Si vous avez un aéroport comme Orly qui reste ouvert, mais que la plupart des aéroports du Maghreb, la plupart des aéroports africains, la plupart des destinations de week-end de 3 jours sont fermées aux touristes, eh bien, vous avez beau des avions qui seraient prêts à partir, et tous les avions de Transavia, ils sont aujourd'hui bien rangés sur la piste nord-sud, prêts à repartir demain matin. J'insiste auprès de nos auditeurs, Orly peut repartir demain matin et si...
J'allais vous poser la question parce qu'effectivement c'est important d'avoir, quand on fait décoller un avion, de savoir où il va atterrir, vous avez raison de le souligner. Mais vous, si ça ne dépendait que de vous, pour redémarrer Orly, il faut combien de temps?
Il faut entre 2 et 4 jours. Toutes nos équipes de maintenance, de surveillance des pistes, on continue tous les jours à surveiller les pistes pour vérifier qu'il n'y a pas d'objet indésirable, que ce soit les effaroucheurs, que ce soit... Donc l'aéroport peut repartir entre 2 et 4 jours. C'est vraiment
mission de réduction des charges, de réduction des coûts, d'optimisation du système, de façon à pouvoir redémarrer le plus vite possible.
Et il faut préciser que 80% des personnels sont en chômage partiel chez vous, hein, je voulais le souligner. Entrons quand même dans la réalité aussi de votre activité économique, parce qu'on parle beaucoup d'avions ce matin, mais quelle part de votre chiffre d'affaires vous vient des boutiques, des magasins, des hôtels, de l'aéroport d'Orly ?
Oh, on peut dire environ 50%. Orly peut-être
c'est
un peu moins qu'à Charles de Gaulle. Non, c'est pas plus. Et peut-être 55% avec l'immobilier. Non, l'activité est tout simplement à l'arrêt. À Orly, nous n'aurons plus qu'un seul hôtel qui sera en fonction, alors que nous en avons une dizaine. Et naturellement, il n'y a plus un seul commerce qui soit ouvert. Il restait quelques magasins relais. Mais non.
C'est là que c'est compliqué pour vous, Augustin de Romanet, aussi, hein, il faut bien le dire. Avec ces pertes, ce manque à gagner, d'ailleurs, vous le chiffrez au niveau de cette partie de l'activité ?
Oui, nous chiffrons la perte de chiffre d'affaires à plus d'1 milliard d'euros. Donc, pour l'ensemble du monde du transport aérien, cette situation de pandémie est extrêmement grave. Nous avons, donc, comme vous l'avez dit, 80% des effectifs en temps partiel. Alors, nous avons lancé un plan d'économie très important, de façon à essayer de préserver au maximum notre indépendance et à essayer de ne pas abuser des aides publiques, parce que il y a tellement de secteurs nécessités, entre guillemets, que nos collaborateurs, particulièrement responsables, et je salue les organisations syndicales qui ont accepté le plan d'économie que nous avons fait, essayent de se mettre à la cape, comme on dit en navigation.
Quand vous dites un milliard de pertes, vous parlez d'aéroports de Paris ou d'Orly juste ?
Pour le groupe aéroport de Paris.
Oui. Je voyais aussi que l'ancien patron d'Air France, qui est aujourd'hui directeur de l'Association internationale du transport aérien, Alexandre de Juniac, estime que le manque à gagner en 2020 pour les compagnies aériennes, cette fois, sera de près de 230 milliards d'euros. Votre secteur d'activité est au-devant d'une crise profonde ?
Il est au-devant. Il est au milieu d'une crise gravissime. Et il est au-devant d'une transformation des comportements, puisque il est probable que le rythme de croissance du transport aérien que nous connaissions jusqu'à présent, c'est-à-dire environ 2 fois plus rapide que la richesse nationale, lorsque le PIB mondial croissait de 3,5 ou 4% par an, eh bien le transport aérien croissait d'environ 8% par an. Ce rythme de croissance, qui est porté notamment par une multiplication des très courts séjours à très bas prix, par une multiplication des séjours de très longs courriers pour des courtes périodes, il est probablement un peu remis en cause. Et comme je l'ai dit déjà il y a plusieurs années, sur votre antenne d'ailleurs, l'époque où on passait des vacances aux Maldives à Noël pour 8 jours, ou l'époque où chaque week-end on va dans une ville européenne pour un voyage à 49,99 €, va peut-être être un tout petit peu revisité. Et en tout cas, il est clair que le transport aérien fait face aujourd'hui à une situation qui est extrêmement sérieuse, parce que non seulement la crise est grave, mais en plus la durée du redémarrage est probablement plus longue que les crises précédentes. Les crises précédentes, le volcan Ekafol, en septembre, etc., on se remettait entre 3 mois et 10 mois. Là, j'espère que ça ne sera pas beaucoup plus long.
On va surveiller, évidemment, ça c'est notre boulot aussi, de surveiller ces évolutions dans les mentalités, dans les pratiques du secteur aérien. Vous concernant et concernant ADP, Augustin de Romanet, il y a bien sûr la question de la privatisation. On est d'accord, aujourd'hui, ce processus est en pause.
On est d'accord.
Dans les faits, la privatisation devait avoir lieu quand ?
Le ministre de l'Économie et des Finances avait probablement le souhait de réouvrir ce dossier après le résultat du référendum d'initiative partagée qui devait exprimer le souhait d'un certain nombre de Français.
Donc maintenant.
il devait donc l'ouvrir maintenant. Mais je crois qu'il a eu l'occasion d'exprimer le fait que ça n'était pas du tout son actualité.
Si ça avait été privé, ADP, ça tenait le coup aussi bien ?
Je crois que ça tenait le coup tout aussi bien, tout à fait. Vous le savez, depuis que j'ai été en charge de ses responsabilités, j'ai toujours voulu gérer ADP, développer ADP d'une manière telle que, public ou privé, ça n'est pas le début du commencement d'une importance. Nos collaborateurs sont dédiés à la qualité du service, à la robustesse, à la performance. Et encore une fois, nous sommes une entreprise qui est dédiée à ses clients. Le fait qu'un actionnaire soit public ou privé Dès lors que il y a un partage, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, nous sommes cotés en bourse, donc il y a un mixte d'actionnaires, il y a à la fois des actionnaires publics ou privés, normalement, si le management fait bien son boulot, ça n'a pas la moindre importance pour le fonctionnement de l'entreprise.
Et ça n'est pas l'urgence, évidemment, en ce moment. Augustin de Romanet, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1, merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée.
PDG d'Aéroport de Paris était notre invité en direct ce matin sur Europe 1, 6h49.
Europe 1.
Et les avions ne décollent plus, mais on voyage quand même sur Europe 1, la revue de presse internationale dans un instant. L'Algérie, le Japon, l'Équateur, à tout de suite.
Audible, raconte-moi une histoire.
Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande
pour
partie
grandir,
de l'ouest.
Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière
il
de
marcha dans la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers mots.
Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle.
Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Notre réseau de correspondants sur tous les continents, c'est la revue de presse internationale, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nour Chahine est à Alger pour Europe 1. Bonjour Nour.
Bonjour Mathieu.
À la une, en Algérie, la ruée sur la semoule.
Eh bien oui, en Algérie, rien ne vaut la bonne vieille galette de pain traditionnelle en cette période de confinement. Mais faut-il encore trouver de la semoule pour en faire ? Les citoyens font fi des consignes de confinement. Rush sur la semoule, titre le journal Liberté. Quant au journal El Watan, il consacre un article à la lutte que mènent les pouvoirs publics contre la spéculation autour de la semoule, qui se fait rare depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19. El Watan met en une stockée pour être écoulée sur le marché parallèle 300 quintaux de farine et de semoule saisis à l'est du pays. Le Soir d'Algérie évoque un dispositif spécial semoule et pommes de terre lancé par le gouvernement, alors qu'El-Khabar fait parler un représentant d'une association de consommateurs. Il explique dans un entretien accordé au quotidien arabophone que cette pénurie de la semoule est due au changement des habitudes de consommation des ménages et la fermeture de boulangeries.
Nour Chahine, en Algérie, pour Europe 1. Bernard Delattre est à Tokyo. Bonjour Bernard.
Bonjour Mathieu.
À la une de la presse chez vous.
D'un nouveau mot dans la langue japonaise, koro-hara, ça désigne le harcèlement moral dont sont victimes des gens qui sont soupçonnés d'avoir contracté le coronavirus. Les exemples donnés par le Japan Times sont effarants, minables même pour le Asahi Shimbun. Des sociétés de taxi ou de livraison mettent sur liste noire des hôpitaux soignant des personnes contaminées. Ils refusent de s'y rendre. Des salariés sont mis à pied parce qu'ils viennent d'une région très touchée par le virus. Ils n'ont pas été infectés, mais sait-on jamais. Et dans le transport en commun, de plus en plus de gens ici arborent un badge disant « Je ne suis pas infecté, j'ai juste, au choix, selon le badge, la grippe, des allergies ou de l'asthme. » Ces usagers ont la hantise de tousser ou d'éternuer dans le train ou dans le métro et de se faire fusiller du regard, voire expulser de la rame, comme cela s'est déjà produit.
Bernard Delattre à Tokyo. Éric Sanson est en Équateur pour Europe 1. Bonjour Éric.
Bonjour Mathieu.
Chez vous, on parle de désert des Galapagos.
Oui, et c'est la raison pour laquelle le quotidien L'Universo affirme que la pandémie a transformé les Galapagos en un archipel fantôme. Faute de touristes, la ville de Puerto Ayora est devenue un couvent où règne un silence absolu, note le quotidien. La faute en revient à 4 cas de coronavirus, expliquent plusieurs médias. 4 cas, ce n'est pas beaucoup, mais aux Galapagos où il n'y a que 4 centres habités, c'est encore trop. El Telegrafo note que la contagion doit absolument être contrôlée, car dans les hôpitaux locaux, il n'y a aucune unité de soins intensifs. Les animaux, tortues géantes, iguanes, fous à pattes bleues, sont les grands gagnants, encore plus tranquilles que d'habitude. La réserve marine est toujours surveillée par images satellites, note El Comercio, et il y a toujours des gardes pour donner à manger aux milliers de tortues géantes élevées pour repeupler l'archipel.
Merci beaucoup Éric Sanson. C'était la revue de presse internationale. Nous étions en Algérie, en Équateur, au Japon. Vous êtes sur Europe 1, 6h53. Excellent réveil à toutes et à tous. Un peu de musique à suivre. Mathieu Noël et son équipe est sauvage, bien sûr. Laurent Cabrol et le journal de 7h avec Hélène Zellani. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Mathieu Béliard.
6h55 sur Europe 1, je suis ici en direct de mon garage en Normandie, figurez-vous, pour vous présenter la matinale d'Europe 1. Lui, il est chez lui aussi, on prend la direction de... Tiens, quel quartier parisien ? Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour, vous voulez tout savoir Mathieu Béliard,
ouais.
D'après vous.
Allez, je vais tenter le 11e arrondissement.
Le 11e arrondissement parce que je suis un bobo, c'est ça ?
Bah oui, vous savez, j'en viens.
Oui, bien joué. Oui, c'est vrai.
J'étais
vous avez
dans
tout
le 20e,
à fait raison.
Moi, j'étais bobo.
Bien, je ne suis pas très loin. Je ne suis pas très loin. Je suis dans le 10e, mon cher.
D'accord,
Mathieu.
D'accord. Et on est donc dans le 10e avec vous pour l'équipée sauvage.
Pour l'équipée sauvage, effectivement, et les Mathieu s'enchaînent aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à 16h dans l'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1. Je prendrai des nouvelles de Mathieu Madénian, cet humoriste d'à peine 40 ans, puisqu'il est né à Perpignan en juillet 76, qui nous fait de tête 43 ans. Pourquoi insister sur son âge, me direz-vous Mathieu ? Eh bien, si j'insiste sur son âge, c'est afin d'éviter qu'un de mes journalistes fasse la même gaffe qu'Ève Roger la dernière fois. Ève Roger qui avait signé un superbe papier dans mon émission, un papier qui avait énormément plu à Mathieu Madénian, qui s'apprêtait à voter pour elle jusqu'à ce que... Patatras.
Ève Roger, pourquoi le public doit voter pour vous ?
Parce que ce qui vaut pour Mathieu Madénian ne veut pas forcément pour tout le monde. Moi, j'ai dit à Mathieu Madénian qu'il peut trouver l'amour à 50 ans.
Mais il n'a pas 50 ans, vous n'avez pas le point, il a 43 ans.
Tu es éliminé.
Voilà, c'est dommage, c'est con de faire une belle chronique puis se planter bêtement sur l'âge de l'invité, comme ça, à bon entendeur. Donc Mathieu Madénian n'a que 43 ans et un humour décapant qui va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui, je pense, Mathieu. Rendez-vous à 16h.
Rendez-vous à 16h pour l'équipée sauvage avec Mathieu Noël. C'est sur Europe 1, 6h57. Un peu de musique ce matin et on écoute toutes les musiques sur Europe 1, vous le savez. Je vous emmène au festival de jazz de Montreux. En ces temps de confinement, on serait bien en Suisse, sur les rives du lac Léman, où vit Phil Collins, que vous entendez, et où il se produit régulièrement. Tiens, par exemple, ce que vous entendez, c'est le festival de 2004. Eh bien, après une multitude d'artistes sur les réseaux sociaux, après l'Opéra de Paris et d'autres du monde entier, le festival de jazz de Montreux propose de vous aider à supporter le confinement en musique aussi. C'est du live. Il y a quelques classiques en 53 éditions du Festival de Jazz de Montreux. Classique, c'est un euphémisme. Nina Simone, Marvin Gaye, Johnny Cash, Carlos Santana, Deep Purple, le Wu-Tang Clan. Tiens, 1980, James Brown. Rien que ça, 50 concerts en streaming complètement gratuits pendant 30 jours sur le site du Festival de Jazz de Montreux. Je voulais qu'on écoute un petit peu de What I'd Say 1997. Ray Charles sur Europe 1. Le Festival de Jazz de Montreux, 54e édition, doit pour l'heure se tenir au mois de juillet. La programmation n'a pas encore été dévoilée, mais 53 éditions avec des pépites comme celle-ci à découvrir gratuitement en streaming. Et j'ai décidé que ce serait ma mission désormais à 6h58, faire danser Hélène Zélani et faire chanter Laurent Cabrol. Je crois que j'ai réussi ce matin.
Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu le sais ?
Oui, c'est vrai, c'est Johnny, hein ?
Oui, il y a Johnny.
Oui, bien sûr.
C'est Vartan qui chante des
amis. Eh oui.
Est-ce que tu le sais ? Dis-moi. Bon, ben, je vais vous le dire, chers amis. Est-ce que je le sais ? Oui, je sais qu'il fait froid. Moins 5 à Luxeuil, moins 4 à Vichy. Il faut que je revienne à ma météo. Moins 3 à Mulhouse, moins 2 à Clermont-Ferrand et Strasbourg en ce moment. À Besançon, Bordeaux et Lyon, entre moins 1 et plus 1. 2 à Lille et Bourges et en banlieue parisienne. 3 à Toulouse, 4 à Marseille et 6 degrés à Brest. Je vous donne ces températures, bien que vous soyez soigneusement à la maison, confiné, mais vous savez que si vous ouvrez les fenêtres, il va faire froid. Et attention, il y a du vent, 50-60 km/h. Et cet après-midi, ne tenez pas compte de ce que je vais vous dire, entre 12 et 15 degrés, 16 degrés les températures. Pourquoi ne pas en tenir compte ? Parce que le vent va rafraîchir l'atmosphère et qu'il fera pas chaud non plus dans l'après-midi. Il fera beau en revanche, le ciel sera dégagé quasiment partout, avec des éclaircies un peu plus capricieuses, donc des nuages dans tout le sud-ouest et en Languedoc-Roussillon. Quelques averses en Provence et à Côte d'Azur, mais partout ailleurs, y compris sur la capitale, ce sera du grand beau temps.